L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Bonjour à tous. Alors, nous allons réévoquer aujourd'hui encore l'Afrique dans tous ses états, dans tous ses éclats. Aujourd'hui, je pense qu'on pourra aussi parler d'éclats, vous allez voir. Je tiens à saluer Guylaine qui, aujourd'hui, nous a abandonnés dans le studio et qui se trouve aux commandes dans la régie. Donc, bonjour Guylaine et merci de bien vouloir nous enregistrer. Et je vais vous présenter aujourd'hui une dame. Alors, je dirais que c'est une grande dame. Alors, je ne me fatiguerai pas trop puisqu'elle mesure plus d'un mètre 80, mais c'est aussi une grande dame à d'autres niveaux. Et elle nous vient du Burkina Faso, qui est un pays que je connais assez bien, ou plutôt bien, depuis plus de 20 ans. Et Christine Cafando, donc, puisque c'est elle dont il s'agit, et nous a fait l'honneur de venir discuter, parler avec nous expliquer un petit peu, sûrement beaucoup même, la problématique du VIH dans son pays, puisqu'elle est vraiment une des pionnières de la lutte contre cette maladie dans son pays. Alors, pour vous la présenter, excusez-moi, je vais vous présenter ses quelques titres. Alors, elle a été la première femme à témoigner à visage découvert dans son pays, le Burkina Faso, et ça l'a conduite à interpeller les plus hautes instances du pays et des pays internationaux et des accès internationaux, et pour l'accès aux soins dans son pays. Elle a été membre fondatrice donc de la première association de lutte contre le VIH et les IST au Burkina Faso. Puis en 2003, elle a fondé l'association Espoir pour demain, donc à Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du Burkina où elle réside, et elle en est la présidente depuis, présidente fondatrice. Ensuite, comme elle a commencé à militer pas mal, et vous allez voir avec quelle force de conviction, elle est devenue membre du Comité national de lutte contre le sida et des IST, des infections sexuellement transmissibles, et représentante les personnes vivant avec le VIH dans son pays. Elle est membre de la coordination des pays pour le Fonds mondial. Elle est membre du comité scientifique de l'Association nationale de recherche sur le sida. Elle est membre du comité de SIDAction et elle est présidente de la commission permanente de SIDAction. Donc d'ailleurs, c'est grâce à ce titre-là que nous la recevons aujourd'hui, puisqu'elle était sur Paris, elle est venue nous rejoindre. Et puis alors, je vais quand même, elle ne voulait pas trop, mais je vais quand même donner ses titres. Elle a été décorée de l'ordre du mérite national du Burkina, avec la grave santé en 2011, justement en tant que pionnière et initiatrice d'une forte lutte contre le VIH dans cette ville-là. Elle a eu la Légion d'honneur française, excusez-nous du peu, en 2014, voilà, remise par l'ambassadeur à l'époque au Burkina Faso. Elle a reçu le prix Sia Mousso, des femmes leaders de Bobo. Alors, Sia, c'est le nom de la ville de Bobo. Non, comme nous, Lutèce, c'est Paris maintenant. Donc, c'est le nom initial de la ville de Bobo. Et Mousso, c'est femme. Donc, elle a reçu ce prix-là pour les femmes leaders. Et elle a reçu aussi au Burkina le prix des meilleures œuvres sociales parce qu'elle agit beaucoup. Elle a un esprit communautaire et dans le social, elle vous expliquera sûrement tout ça. Et elle a reçu, pour finir, le prix international du SIDAction. Voilà, je m'arrête parce que là, j'ai un peu soif d'avoir énuméré tout ça. Et donc, bonjour Christine Cafando, merci de nous rendre visite. Et j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu, autant que vous le pourrez, et bon, on va voir dans le temps qui nous est imparti, que vous nous racontiez un petit peu tout ce chemin qui fait qu'il y a toute cette tartine de titres et de reconnaissance et d'investissement que je viens de citer et qui vous a amené à ça. Voilà, qui vous êtes Christine et pourquoi, dans cette hauteur que vous avez, qui est physique aussi, vous avez pu réaliser tout ça à votre âge qui n'est pas canonique du tout, du tout, du tout. Bonjour Christine et à vous.
Bonjour, je remercie en tout cas la radio FM de Montpellier. Je remercie Madame Kizak en face de moi et Madame Guylaine. Et je dis bonjour à tous ceux qui nous entendent et qui nous écoutent aujourd'hui. Je vais essayer de parler un peu de mon vécu, de mon quotidien, de mon parcours un peu autour du VIH-SIDA. Il faut dire que je me suis faite dépister en 1997 et c'était au moment où on faisait beaucoup les campagnes de sensibilisation. Je rentrais de la Côte d'Ivoire où je suis née, où j'ai grandi. Et donc, je me suis prêtée à ce dépistage-là et voilà, qui s'est avéré malheureusement positif. Et en ce moment, je m'occupais des enfants au niveau d'un centre de santé, dispensaire trottoir. Et lorsque j'ai su mon VIH, j'étais positive, je me suis dit, bon, encore un autre combat qui s'annonce. Il ne faut pas baisser les bras, car en ce moment, c'était la stigmatisation et le rejet qui étaient démises. Et toutes les personnes vivant avec le VIH étaient abandonnées, soit par la famille, la communauté, et même le personnel médical stigmatisait beaucoup les malades. Et donc, pour changer ce regard, pour donner en tout cas une dignité à ceux qui sont malades, il fallait affronter le VIH. On ne peut pas laisser le VIH prendre le dessus. Donc, du coup, on a tout de suite créé l'association REF Plus en son temps pour sensibiliser et faire le plaidoyer autour des autorités politiques, autour des acteurs de la santé, pour dire que c'est une maladie comme toute autre, il faut la prendre en charge, même si on savait que c'était une maladie qui faisait des ravages en son temps, parce qu'il n'y avait pas de traitement pour cela. Il n'y avait pas d'accompagnement et tout le monde avait peur de cette maladie-là. Et donc, cette association a permis de sensibiliser et de changer le regard du VIH et le regard autour des personnes vivant avec le VIH.
Voilà, et c'est vrai que je confirme que ce qui était difficile, puisque à ce moment-là, j'avais mes actions là-bas, ce qui était très difficile, et notamment à Bobo, c'est qu'il y a un centre de recherche qui existe toujours, qui était à l'époque sur la coopération française aussi, qui envoyait des moyens puis des chercheurs, et que ce centre de recherche proposait effectivement des tests, donc il était relativement simple, relativement, parce qu'il y avait un coût quand même de se dépister. Par contre, et moi j'ai partagé ce désespoir avec les gens là-bas, et notamment avec les femmes. Par contre, on ne proposait rien après. On vous balançait ça et on vous disait, voilà, vous avez le sida. Et maintenant, débrouillez-vous. Et c'est vrai qu'on voyait des spectacles dans la rue, c'était quand même très triste et démoralisant. Et je dois dire que quand REF Plus est né, ça a donné un petit souffle, enfin pour tout le monde, y compris pour l'étrangère que j'étais, ça a donné un petit souffle peut-être à une petite partie de la population, et en tout cas pour ces personnes qui ont pu rejoindre Christine et les autres pionniers de cette lutte, voilà, qui ont pu les rejoindre en se disant, ben, comme l'a dit Christine, on ne baisse pas les bras et on se met au combat. Ça, c'était les tout débuts, c'était les balbutiements. Voilà. Alors ensuite, Christine, il s'est passé quoi après?
Bon, ensuite, je pense qu'à travers notre mobilisation et le plaidoyer, on a commencé à toucher la sensibilité de nos États. Et donc, du coup, au niveau du service de médecine, il y avait un médecin engagé au nom du docteur Sawadogo Adrien, qui était le seul médecin qui s'occupait notamment des personnes vivant avec le VIH et à qui nous avons proposé de venir dans son service et témoigner à visage découvert, l'aider dans le circuit du passage des malades, afin d'amoindrir le choc de ceux qui viennent d'apprendre leur sérologie et voir dans quelle mesure on peut les accompagner à mourir dignement. Je dis mourir dignement parce qu'il n'y avait pas de traitement et il fallait prendre son mal à patience. Et donc, ces malades qui étaient abandonnés par les familles et le monde médical, il fallait d'autres personnes pour les aider, pour les soulager, pour les accompagner, afin qu'ils meurent comme des êtres humains. Parce que beaucoup de malades sont morts, abandonnés, délaissés dans leur infection, dans leur diarrhée et tout ça. Et nous, on était là pour changer en tout cas l'image de tout ça. Et donc, ce médecin nous a permis d'avoir un box dans l'hôpital où on appelait le box des séropositifs. On a assumé, c'était une forme de nous stigmatiser. On a assumé, on a fait face à ça. Et effectivement, on était des personnes séropositives, donc il ne faut pas le nier, il ne faut pas se cacher. Et les témoignages à visage découvert auprès de ces malades et auprès de ces médecins qui étaient autour de nous a fait qu'on a interpellé le système de santé au niveau du ministère, qui a reconnu le travail que nous faisons et depuis lors qui nous a permis en tout cas d'être des membres à part entière du système de santé à travers les campagnes de sensibilisation, la prévention. On était même quelquefois même des formateurs de personnel de santé parce qu'il fallait que nous, on leur montre que ce n'est pas une maladie qui se transmet en mangeant avec quelqu'un, ce n'est pas une maladie qui se transmet quand on dort avec quelqu'un ou quand on partage des objets ou autres. Et c'était une maladie sexuellement transmissible. Et au niveau du Burkina Faso, le mode de transmission, c'était essentiellement hétérosexuel. Donc, voilà, on ne peut pas abandonner quelqu'un parce que, voilà, il a été malade. Et il faut dire que tout ce combat qu'on a mené a permis quand même d'aboutir à l'accès au traitement pour les infections opportunistes d'abord. Parce qu'en ce moment, on n'avait même pas le cotrimoxazole qui coûtait peut-être 500 francs. Peut-être à peu près 1 euro, même pas 1 euro. Et les malades n'avaient pas accès à ça. Et vous savez qu'en son temps, le VIH, c'était essentiellement la diarrhée. Et donc, les gens, ils mouraient par diarrhée. Et c'était quoi le traitement pour la diarrhée? C'était essentiellement les glucosés, les solutés. C'était des ballons voilà, d'eau qu'il faut injecter aux gens pour pouvoir les récupérer, les remonter. Et ça, on n'avait pas accès à ça. Et donc, on était en tout cas faible, on était impuissant face à ce problème-là. Et on voyait succomber pas mal de nos collègues, nos camarades, nos amis, nos familles. Et c'est petit à petit qu'on a pu maintenant avoir avec l'aide d'autres médecins, notamment, je mentionne ici le docteur Péguini, qui était de la coopération française, Péguini Michel, et qui a mis en place une solidarité au niveau de la ville de Bobo pour récolter des médicaments venir en aide aux personnes vivant avec le VIH. Et jusqu'en 2001, où nous avons eu les tout premiers traitements antirétroviraux qui ont permis de sauver quelques personnes. Et là aussi, il fallait faire un choix parce que le traitement qu'on avait était destiné pour les adultes. Uniquement que pour les adultes, il n'y avait rien pour les enfants, il n'y avait rien pour les femmes enceintes, tout et tout. Et donc, de façon concertée avec tout le personnel, on s'est dit, il y a des femmes enceintes qui arrivent. Et autant garder le traitement pour ces femmes enceintes parce que là, il y a deux vies à sauver que de donner à une personne. Voilà. Et on voyait que des personnes allaient mourir dans une semaine, dans deux semaines, dans un mois si on ne donnait pas le traitement. Mais c'était un choix dur à faire. On a préféré donner le traitement aux femmes enceintes pour pouvoir les maintenir en vie et avoir l'espoir de voir un enfant qui peut naître dans ce contexte-là sans être infecté. Et donc, c'était très, très dur. C'était des choix difficiles. On se culpabilisait quelquefois, mais bon, il fallait aller là. Jusqu'en 2003, où on a commencé à voir petit à petit les antirétroviraux à large échelle pour que tout le monde puisse se soigner.
Avec diminution du prix du traitement aussi, parce que
voilà, il faut dire que le traitement coûtait en son temps très, très, très cher. Ouais. Aucun Burkinabé, quel que soit son niveau social, ne pouvait pas se l'acheter. Et donc, c'était des partenaires essentiellement du Nord qui nous aidaient, notamment le programme, le JPSTER, qui a envoyé le tout premier traitement. Et après, maintenant, le Fonds mondial est venu. Et puis, bon, ils ont commencé à mettre quelques produits sur le terrain. Mais il faut dire que nous, en son temps, on avait des amis médecins, notamment le docteur Jean-Baptiste Guyachmit, qui récoltait les médicaments en Europe ici et qui venait donner aux malades au Burkina Faso à travers le docteur Sawadogo Adrien. Et puis, moi, je n'ai rien à cacher. Mes premiers traitements sont partis de Montpellier grâce à Marie-Claude ici. On a initié mon traitement ici. Et voilà, je profite
pour
dire... Et
Dieu sait que c'était difficile.
Oui, je profite pour dire merci à ces médecins Romolo Baglioni, Vincent Fouchère, Karine Favier, et puis Nicolas Terraille, qui était le pharmacien. Je dirais que ma vie, je la leur dois, en fait, en quelque sorte. Voilà, merci si vous m'entendez. Si vous ne m'entendez pas, vous m'entendrez un jour.
Oui, et puis c'est vrai que la vie de Christine, même si quelques personnes ont osé me dire pourquoi, notamment la chef de pharmacienne d'un grand laboratoire qui lui fournissait la molécule essentielle à son traitement, qui a osé me dire un week-end, alors que j'étais désespérée, que je l'ai appelée, me dire mais pourquoi une seule personne après tout, avec tous les gens qui sont malades. Et quand depuis je vous ai énuméré ces titres, mais c'est, derrière ces titres, il y a surtout un énorme travail de solidarité. C'est pas pour rien qu'elle a gagné d'ailleurs le prix des meilleurs œuvres sociales de Burkinabé. Je dois dire que je ne regrette pas du tout cet investissement du départ. Hein. Ça a été 2 ans un peu compliqué pour nous tous. Mais en même temps, c'est vrai que la solidarité a beaucoup joué et que cette chaîne de solidarité nous a rappelé que nous étions tous des humains et que nous devions tous, comme dit Mandela ou non, Luther King, je ne sais plus, qui dit si on se rend pas compte qu'on doit être solidaire, on mourra tous ensemble comme des idiots si on vit pas ensemble comme des frères. Voilà. Et c'est vrai que ça, donc Christine nous a tracé un petit peu sa route jusqu'en 2003. Et moi, je voudrais dire, je me permets d'expliquer qu'en 2003, bon, il y a eu des choses, peut-être à un moment, elle n'a pas toujours été d'accord avec ce qui se passait dans son association, dans l'association référente, mais ça, ce n'est pas le plus important. Et à ce moment-là, elle a accueilli chez elle, parce qu'on parlait de gens qui étaient chassés, qui étaient stigmatisés, qui étaient... Moi, j'ai vu des choses vraiment, personnellement, inimaginables, voilà. Pour nous Français surtout, qui avons un système de sécurité sociale, un système social quand même assez perfectionné, plutôt même très perfectionné. Et Christine, avant justement, elle va vous parler après de son entreprise personnelle après, de ce qu'elle a initié, elle a recueilli chez elle une femme avec un bébé, séropositif. Elle les a recueillis chez elle parce qu'à ce moment-là, il n'y avait rien. Et c'était un peu à ce moment-là qu'on réfléchissait quelquefois et quand on voyait toutes ces femmes qui étaient chassées, par exemple le mari décédé, on sait très bien que c'est le mari qui est contaminé, sa femme et puis les bébés à venir. Et quand le mari décédé, elles étaient chassées, elles se retrouvaient à la rue sans rien avec leurs petits et c'était vraiment le désespoir et on se disait que c'était d'une injustice terrible. Et Christine, donc, elle vous donnera peut-être sa devise avant la fin de l'émission, qui est quelqu'un qui milite beaucoup pour les enfants aussi, qui est très sensible à ce moment-là. Elle a fait office de foyer hein, jusqu'au... Alors, tu peux nous raconter un petit peu peut-être l'histoire. Vous pouvez nous raconter l'histoire de cette dame et puis de ce qui en a suivi logiquement après.
C'est vrai que en son temps, comme je l'avais dit au départ, la stigmatisation et le rejet étaient tellement forts que dans les familles, lorsque le mari décédait, la femme était jetée dans la rue avec ses enfants et sans revenu, sans, on ne parlait même pas d'héritage. Surtout quand on soupçonnait que c'était le VIH, tout le monde est mis à la rue. Et donc, au début, quand on n'avait pas de local pour l'association, et je rencontrais beaucoup de femmes en consultation, en service de médecine. Et là, particulièrement, je suis tombée sur deux cas où la première, elle avait un bébé qui venait de naître, séropositif. Je pense qu'en son temps, je me rappelle très bien, elle avait environ 6 CD4. Et le bébé était tout malade avec des mucoses dans la bouche. Et je me suis dit, mais celle-là, on ne peut pas la laisser comme ça. Il n'y avait pas de centre d'accueil, rien du tout. Et donc, je l'ai récupérée chez moi. Et tous les matins, j'essayais de partager ma nourriture avec elle parce que je savais qu'elle avait aussi faim. Et le bébé, je m'en occupais et on a acheté les biberons par l'aide des amis, par-ci, par-là, du lait, pour que l'enfant puisse... parce qu'il n'y avait pas le traitement pour transmission mère-enfant en son temps. Donc, du coup, il ne fallait pas que l'enfant il allait de sa mère. Et le lait, il coûtait 4000 francs la boîte et le bébé, il devait en boire 8 boîtes par mois.
En sachant que le SMIC, quand on a la chance de travailler, c'est 35 000 francs.
Exactement.
Hein. Alors, 4000 francs la boîte de lait, voilà. Ça fait. Hein.
Donc, du coup, on a hébergé cette femme. Le bébé, il avait commencé à récupérer, mais bon, il n'y avait pas le... Comment on appelle ce test-là? C'était l'examen du génotypage? Non, ce n'est pas le génotypage.
Non,
mais c'était
pas le génotypage.
C'était le test pour savoir si l'enfant est infecté à 18 mois. Et oui. Cet examen n'existait pas, en fait. C'était ce qu'on appelle la charge virale au niveau de l'enfant. Donc, du coup, l'enfant était infecté, mais on ne le savait pas. Et au bout de 3 mois, dès qu'il a commencé à prendre un peu de poids, il a fait une grosse infection, pneumonie, tout et tout. Et bon, l'enfant a fini par décéder. Oui. Et la maman, elle a mis du mal à se remettre, mais bon, elle a récupéré. Et puis, elle a eu la chance d'avoir un traitement. Mais par la suite, elle est décédée parce que le traitement est venu très tard.
Oui, donc c'est vrai que... Non, si c'était l'heure, parce que tu me disais 1 minute, non? On avait dit 20, 25, non? Oui, non, pas en tout, hein, parce qu'on fait en deux fois. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses?
Oui.
Donc, bon, on fait 1 minute ou deux et on s'arrête. Alors, elle finit avec son histoire, là? Et puis comme ça, après, elle parlera de la création de l'association Espoir pour demain, dans la deuxième partie. Voilà, oui, là, dans les 25 minutes, hein, on finit là-dessus. Sarah, voilà, d'accord. Bon, on reprend alors. Oui, donc cet enfant a fini par décéder. Et puis, ce qui est intéressant, ce que vous nous expliquez, et ce qui a été, ce qui est quand même aussi, et à l'heure actuelle, peut-être on en reparlera d'ici la fin de l'émission ou la prochaine fois, ce sont les infections opportunistes. Et donc, effectivement, on ne meurt pas forcément directement de la maladie, mais de toutes les infections. C'est un corps qui est ouvert, c'est un organisme qui est ouvert à tout. Et surtout sur un tout petit, c'est compliqué. Oui.
Et il faut dire que au niveau des tout petits, des bébés, il y avait même pas. Déjà qu'il y avait même pas des médicaments pour les adultes, la forme pédiatrique n'existait même pas. Il y avait rien pour les enfants, les nourrissons. Donc un enfant infecté, voilà, comme j'ai dit, les parents prenaient le mal en patience parce qu'on savait qu'il allait mourir bientôt. Et voilà, ça c'était le premier cas. Le deuxième cas, c'est une dame et son mari. Là, il n'y a pas eu de stigmatisation entre eux, mais la dame, elle a accouché, séropositive, le monsieur séropositif. Donc, du coup, ils avaient du mal à s'organiser. Le monsieur, il était gardien, il n'avait pas assez de moyens. Donc, j'ai récupéré cette dame aussi à la maison. Et heureusement, le bébé, on a donné du lait artificiel. Il a échappé au virus. Mais la maman est tombée dans la dépression et on a tout fait. Et au bout de quelques mois, elle est décédée. Donc du coup, j'ai gardé ce bébé pendant presque un mois avec moi, en attendant que le père aille retrouver les sœurs de la maman qui sont revenues et qui ont récupéré ce petit. Mais aujourd'hui, je pense que ce petit doit avoir 12-13 ans maintenant.
D'accord.
Peut-être voir un peu plus même. Mm-hmm.
Voilà. Ok. Bon, ben, je pense qu'on peut peut-être arrêter là avec une morceau que vous avez choisi de musique. Qui évoque cette maladie qui s'appelle, vous vous rappelez le nom du. Voilà. le nom de. C'est une chanson qui vient d'être reprise. En fait, c'est une reprise hein, avec plusieurs artistes, Florent Pagny, il y a plusieurs chanteurs. Et donc, la pause musicale. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup, Christine, de ce témoignage qui nous a vraiment, sûrement ramené dans des tristes années, dans des difficultés. Et en même temps, vous êtes là et vous allez nous parler de ce que vous avez initié pour continuer à avancer la semaine prochaine. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir à tout le monde.